Elisabeth Borne.
Oh pardon, excusez-moi, Fabienne. Bonsoir Fabienne Synthèse.
Merci les amis, allez à demain, pour nous c'est parti, édition spéciale, vous allez vivre en direct cette passation de pouvoir entre Jean Castex et Elisabeth Borne, qui devient donc la première ministre d'Emmanuel Macron. Ce sera dans un tout petit instant, beaucoup de monde pour en parler avec vous. Question ensuite au téléphone sonne à partir de 19h20. En attendant, c'est le journal de Sébastien Augénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et bien sûr, c'est à Matignon que l'on commence.
Oui, ce soir avec une première ministre en devenir, une femme à Matignon, ce sera bientôt fait après 3 semaines d'attente. Elisabeth Borne est sur le point d'être nommée chef du gouvernement Macron II. L'ancienne ministre du Travail du gouvernement Castex est actuellement à l'Élysée. Rien d'officiel encore à cette heure, mais ça ne saurait tarder. La passation de pouvoir avec Jean Castex devrait avoir lieu vers 18h30. 19h, nous serons en direct de Matignon dans un instant. Dans ce journal également, le portrait de cette femme de 61 ans, polytechnicienne venue de la gauche, et l'analyse de ce choix politique, choix de la continuité et du consensus. À suivre aussi la réaction moins belliqueuse que prévue de Vladimir Poutine à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, le burkini autorisé dans les piscines de Grenoble, la proposition du maire Éric Piolle est en ce moment en débat au conseil municipal, et puis une affaire embarrassante pour le PSG, un de ses joueurs refuse de porter un maillot en soutien à la journée mondiale contre l'homophobie.
France Inter. C'est donc bientôt la fin du suspense après 3 semaines d'attente.
Et c'est donc une femme passée par la gauche qui s'apprête à prendre les rênes du prochain gouvernement. Elisabeth Borne va être nommée première ministre ce soir à la place de Jean Castex. Deuxième femme seulement à prendre la place de chef du gouvernement sous la 5e République. Une première depuis 30 ans, depuis Edith Cresson. On va y revenir. Cette nomination est encore en cours. Pas de fumée blanche officielle venue encore de l'Élysée. Ce qui est sûr, c'est que Jean Castex a bien remis sa démission et celle de son gouvernement au président Macron, et qu'Elisabeth Borne est actuellement à l'Élysée. Nous rejoignons sans tarder Simon Le Baron en direct de Matignon. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
On sent l'agitation au 57 rue de Varennes et on attend l'arrivée de la voiture d'Elisabeth Borne maintenant.
Oui. Oui, nous sommes déjà plusieurs dizaines de journalistes, vous l'imaginez, agglutinés ici sur le trottoir, juste en face de l'hôtel de Matignon. Alors ça nous permet d'entrevoir l'agitation qui règne à l'intérieur. On a aperçu la garde républicaine prendre place dans la cour. On a vu aussi cet employé, peut-être en repos aujourd'hui, arriver en vitesse sur son scooter avec son costume bien plié sous le bras. Et on a vu surtout le cortège de Jean Castex revenir de l'Élysée il y a un peu plus d'une heure, où il a remis en main propre sa démission à Emmanuel Macron. Ensuite, il a passé une petite heure dans le bureau présidentiel, en tête à tête avec ce chef de l'État. Et il n'a de cesse de le répéter ces derniers jours, ce chef de l'État avec qui il a pris beaucoup de plaisir à travailler. Emmanuel Macron salue d'ailleurs sur Twitter la passion et l'engagement au service de la France de son désormais ex-premier ministre. Jean Castex est donc prêt pour accueillir ici celle qui va lui succéder. Ensuite, programme classique, poignée de main ou bise, c'est selon, entretien privé, discours, applaudissements. Et puis l'ancien maire de Prades retournera dans ses Pyrénées-Orientales avec une mission qu'il a confiée à nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, repeindre ses volets.
Voilà, récit de cette nomination en cours avec Simon Le Baron et Selim Guerribi, passation de pouvoir donc avec Jean Castex, entre Jean Castex et Elisabeth Borne vers 18h30, 19h. On en vient tout de suite au portrait de cette future nouvelle première ministre. Emmanuel Macron avait dressé son profil type après sa victoire en avril. Il disait vouloir quelqu'un qui est, je cite, attaché à la question sociale, à la question environnementale et à la question productive. Elisabeth Borne coche beaucoup de cases. Bonsoir Anne Souhaitement.
Bonsoir.
C'est comme on dit une techno, un profil technique, mais elle a toujours fait un peu de politique aussi.
Oui, c'est vrai Sébastien. Alors Elisabeth Borne, c'est d'abord une histoire et elle éclaire son combat contre l'extrême droite de confession juive. Son père a été déporté pendant la guerre. Il réchappera au camp de la mort, ce qui permettra à son décès de devenir, pour Elisabeth Borne, pupille de la nation. Revenons à ce parcours professionnel. Diplômée de Polytechnique, la jeune Elisabeth Borne intègre dans les années 80 le ministère de l'Équipement, une vraie techno comme on dit. Mais très vite, elle cède aux sirènes de la politique et de la gauche. Elle devient conseillère de Lionel Jospin, puis de Jack Lang. En 2002, direction le monde de l'entreprise. Elle prend la direction de la stratégie de la SNCF. 10 ans plus tard, récompense politique. Elisabeth Borne devient la première préfète de la région Poitou-Charentes.
Chaque cas est différent. Ce que je peux vous dire, c'est que dès demain, dans chacun des départements, les services de l'État vont réunir les agriculteurs pour examiner chaque cas et trouver le bon dispositif.
En 2014, Elisabeth Borne revient en politique, dirige le cabinet de Ségolène Royal, socialiste, alors ministre de l'écologie. Et à ce poste, elle est amenée, tiens, à travailler avec Alexis Kohler, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, qui est lui au ministère de l'économie. Retour ensuite et encore une fois à la vie civile. Elisabeth Borne prend la tête de la RATP, ce qui ne l'empêche pas, en 2017, d'afficher son soutien à Emmanuel Macron, qui lui fait alors confiance, la nomme ministre des Transports, en charge de l'une des réformes les plus fortes de son premier quinquennat, celle de la SNCF.
Je pense d'abord aux usagers qui sont aujourd'hui très pénalisés, ceux qui prennent le train tous les matins pour aller au travail, qui ont été pénalisés ce matin et qui seront de nouveau pénalisés ce soir.
Elisabeth Borne deviendra ensuite ministre de la Transition écologique, puis du Travail en 2020, signe de la confiance du président. Elle y récupère le dossier crucial des retraites, sans doute l'un des tout premiers qu'elle aura à gérer en tant que Premier ministre.
Anne Souhaitemont, comment analyser maintenant cette nomination à Matignon ? Bonsoir Yael Gauz.
Bonsoir Sébastien.
C'est donc une femme, on l'a dit, techno-consensuelle à Matignon. Quel signal envoie l'Élysée avec ce choix ?
D'abord, c'est une femme, et ça c'était le souhait d'Emmanuel Macron dès 2017, de nommer une femme à Matignon. Ça ne s'est pas produit, il a pris Édouard Philippe puis Jean Castex. Cette fois-ci, c'est le cas, c'est le choix. C'est la deuxième fois sous la Ve République seulement depuis Edith Cresson qui n'était restée que 10 mois en poste sous François Mitterrand en 1991-92. Son pédigré de gauche ensuite, pédigré de gauche de gouvernement. Il faut savoir qu'Elisabeth Borne anime, co-anime avec 7 autres ministres sortants, Territoire de Progrès qui est un petit club, une association politique au sein de la majorité, elle gauche, tendance elle gauche, animée par d'anciens socialistes. Elle a travaillé avec Jacques Lang, on l'a dit, Lionel Jospin, Ségolène Royal. C'est un changement de braquet pour Emmanuel Macron après 2 premiers ministres de centre droit. Il s'agit de mener la bataille à gauche face à la NUP, à la gauche unie, et d'attirer dans le giron macroniste les électeurs de la gauche dite modérée. L'écologie ensuite, bien sûr, c'est la priorité du quinquennat, et à l'été 2019 jusqu'à l'été 2020, elle était en charge de ça, de la transition écologique. Elle a mené la loi énergie-climat, elle a fermé Fessenheim, elle a fait l'écotaxe sur les billets d'avion. Et puis, ce qui est loué aussi dans l'entourage d'Emmanuel Macron, c'est sa double casquette publique-privée. Elle connaît les rouages de l'État, depuis le terrain, de la préfecture de Poitou-Charentes, jusqu'aux grandes entreprises SNCF et RATP.
Et projetons-nous dans les prochaines semaines, prochains mois, quels sont les dossiers qui attendent Elisabeth Borne ?
Ah là là, beaucoup, ça va être un quinquennat chahuté. C'est pour ça aussi qu'Emmanuel Macron choisit la continuité, parce qu'il y a là besoin d'avoir aussi une connexion très proximité très forte entre l'Élysée et Matignon, d'où la relation privilégiée avec Alexis Kohler, qui est le bras droit d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Feuille de route très très dense, il va falloir redonner du pouvoir d'achat dans un contexte d'inflation galopante, avec un budget rectificatif, sans pour autant perdre la maîtrise des dépenses publiques. Les retraites, bien sûr, avec une double pression d'entrée de jeu de la CFDT, qui considère que ce sera explosif si Elisabeth Borne met cette réforme à l'agenda dès l'automne. Et Édouard Philippe de l'autre côté, qui veut que ce soit avant Noël à tout prix, sinon on ne le fera jamais. Le virage écologique, on en a parlé. Emmanuel Macron veut réduire 2 fois plus vite les émissions de CO2 dans ce quinquennat par rapport au quinquennat précédent. Et puis surtout, défi personnel pour Elisabeth Borne, se faire un nom dans le chaudron politique de l'Assemblée, de la future Assemblée, réparer la fracture peuple-élite, ce sera un défi pour elle-même, réussir sa mue de technicienne en femme politique de poids. Elle mènera d'ailleurs, avec une double casquette, Premier ministre et candidate aux législatives, cette campagne qui va donc démarrer très fort dès maintenant, puisqu'elle est candidate dans la 6e circonscription du Calvados à Caen.
Exactement. Yael Gauz, pardon, chef du service politique, je vous rappelle où on en est à 18h et bientôt 10 minutes. Elisabeth Borne, bientôt nommée première ministre. Elle est à l'Elysée actuellement. Passation de pouvoir prévue avec Jean Castex aux alentours de 18h30, 19h. On continue de décrypter ce choix politique, d'y réagir avec vous, Fabienne, juste après ce journal. 2 heures d'émission spéciale sur Inter.
Avec aussi, bien sûr, vos questions à partir de 19h20. N'hésitez pas, le standard est ouvert. La suite, Sébastien, c'est un changement historique aux portes de la Russie.
2 pays jusqu'ici neutres vont rejoindre l'OTAN. La Finlande l'a annoncé officiellement hier et c'était au tour aujourd'hui des Suédois. Annonce officielle là aussi de la première ministre devant les parlementaires. On aurait pu s'attendre à une réaction virulente de Moscou. Bonsoir Sylvain Tronchet, correspondant en Russie.
Bonsoir Sébastien.
Et finalement, c'est un Vladimir Poutine relativement mesuré qui a réagi à ces deux probables, deux futures adhésions.
Oui, finalement, alors que ce matin encore, le porte-parole du Kremlin disait tout le mal qu'il pensait de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, alors que depuis plusieurs jours, la diplomatie russe brandissait d'éventuelles mesures militaro-techniques. Hein, on s'attendait effectivement à ce que Vladimir Poutine menace, fasse part de son exaspération. Mais en Russie, tant que Vladimir Poutine n'a pas parlé, rien n'est certain. Et une fois encore, le président russe s'est révélé imprévisible. Pour Vladimir Poutine, l'entrée dans le giron de l'Alliance Atlantique des deux pays scandinaves n'est pas en soi un casus belli.
En ce qui concerne l'élargissement de l'OTAN et ses nouveaux membres, la Finlande, la Suède, la Russie n'a aucun problème avec ces États, aucun. En ce sens, l'élargissement à ces pays ne constitue pas une menace directe pour nous. Mais l'expansion de l'infrastructure militaire sur ces territoires nous amènera certainement à répondre de la même manière. Et quel type de réponse ce sera? Nous l'examinerons en fonction des menaces qui apparaîtront.
Alors, il est vrai que la Suède et la Finlande ne sont pas l'Ukraine et que le rapport de la Russie à ces pays n'est pas le même. Le chef du Kremlin a donc néanmoins placé une ligne rouge. Il ne veut pas voir de déploiement d'armement supplémentaire à ses frontières. Vladimir Poutine, qui a dans le même temps accusé les États-Unis de développer des armes bactériologiques en Ukraine et l'Occident d'encourager l'arrivée des néo-nazis dans le pays. On n'a pas pu parler non plus vraiment d'apaisement aujourd'hui.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou. La Russie qui voit définitivement disparaître de ses rues un des symboles de la fin de la guerre froide. McDonald's se retire totalement du pays et va vendre ses activités en réaction à la guerre en Ukraine. La chaîne compte aujourd'hui environ 850 établissements et 62 000 salariés dans le pays. Sur le terrain, c'est un nouveau signe de la très forte résistance de l'armée ukrainienne. Les forces ukrainiennes ont repoussé les troupes russes et repris le contrôle d'une partie de la frontière avec la Russie dans la région de Kharkiv, la deuxième ville du pays. Les cours du blé ont battu un nouveau record aujourd'hui, 435 euros la tonne, le cours au plus haut depuis la guerre en Ukraine, conséquence de l'annonce d'un embargo de l'Inde sur ses exportations de blé. L'Inde qui avait promis de compenser l'arrêt de la production ukrainienne, mais qui a vu sa propre production baisser, notamment à cause des vagues extrêmes de chaleur en ce moment. Le Sri Lanka, lui, s'enfonce encore dans la crise. Le pays est désormais à court de pétrole, incapable de trouver des dollars pour financer les importations essentielles. Pour le moment, le Sri Lanka n'a des stocks de pétrole que pour une seule journée. On revient en France avec ce conseil municipal sous tension à Grenoble. C'est aujourd'hui qu'est mise au vote la proposition du maire écologiste Éric Piolle d'autoriser le burkini dans les piscines municipales. Proposition polémique, on le sait, à laquelle le préfet a déjà prévenu qu'il s'opposerait. La réunion du conseil municipal a commencé dans l'après-midi. Le débat est en cours avec d'un côté le maire Éric Piolle qui n'en démord pas. C'est l'actuel règlement, dit-il, qui est discriminant. On l'écoute.
Aujourd'hui, avec le règlement qui a été introduit en 2012, nous avons une rupture d'égalité, une discrimination qui n'est justifiée ni par l'hygiène ni par la sécurité. Donc nous n'adaptons pas notre règlement puisque nous ne fournirons aucun effort supplémentaire. Nous ne traiterons pas différemment ni avec plus d'égards les personnes venant seins nus ou en combinaison ou dans toute autre tenue ajustée et conçue dans une tenue adaptée à la baignade. Voilà. Nous ne nous adaptons pas, nous stoppons des discriminations à l'égalité devant le service public.
Éric Piolle, réaction en face de la députée et élue d'opposition Émilie Chalas, qui estime au contraire que le maire se trompe de débat.
Votre burkini est en réalité la seule perspective que vous offrez aux grenobloises et grenoblois de confession musulmane. Comme si c'était le sujet qui solutionnerait toutes leurs difficultés. J'ai aussi, dans un registre différent, une pensée pour les agents de nos piscines. Je les ai interpellés la semaine dernière, individuellement, par courrier. Nombreux sont ceux qui ont réagi, car de toute évidence, vous n'avez pas jugé bon de les écouter. Nous sommes sous pression de nombreux élus et du cabinet du maire. Nous n'avons pas été entendus. Nous sommes très inquiets pour la sécurité à l'intérieur de la piscine. Voilà la parole de vos agents. Vous incarnez, monsieur le maire, le visage de la liberté de revenir en arrière. Si votre burkini vous est si cher, portez-le vous-même.
Émilie Chalas, Éric Piolle, des propos recueillis par France Bleu Isère. La fin du feuilleton des législatives à gauche à Vénissieux, la maire communiste Michel Picard a officiellement retiré aujourd'hui sa candidature, s'effaçant donc au profit du nouveau candidat de la NUP, désigné après le retrait de Taha Bouafs, accusé lui de violence sexuelle. Retrait au nom, dit-elle, du combat contre la droite et l'extrême droite. L'affaire plonge le PSG dans l'embarras. Idrissa Gueye, l'international sénégalais du club de foot parisien, parisien a refusé samedi de jouer le match face à Montpellier parce qu'il ne voulait pas porter un maillot au flocage arc-en-ciel en signe de soutien à la journée de lutte contre l'homophobie. Ça sera demain. C'est la deuxième fois que le joueur agit de la sorte. L'an dernier, il avait prétexté une gastro-entérite. Une posture que dénonce l'association Rouge Direct qui lutte contre l'homophobie dans le sport. Elle demande au PSG et aux joueurs de s'expliquer au plus vite. Écoutez, Julien Pontès, il est cofondateur et porte-parole de Rouge Direct.
Nous, on attend une position officielle du PSG. Il faut que le PSG convoque le joueur. Quand l'employeur n'est pas satisfait du comportement d'un joueur, eh bien, il doit le convoquer et puis demander de s'expliquer. Or là, malheureusement, on apprend que le PSG semble, pour le moment, ne pas envisager une convocation du joueur. Ce serait une erreur considérable de laisser passer cet acte-là qui manifestement relève de l'homophobie. Si le PSG laisse passer cela, et si la Ligue de foot professionnelle laisse passer cela, alors on reconnaît un droit à l'homophobie dans le football à la veille du 17 mai. C'est extrêmement grave, l'homophobie, c'est un délit, ce n'est pas une opinion.
Julien Pontès, pardon, cofondateur de Rouge Direct. Ajoutons les chiffres du ministère de l'Intérieur aujourd'hui sur les plaintes pour crimes et délits commis envers les personnes LGBT, une hausse de 28% en France en 2021 par rapport à l'an dernier. Une hausse ramenée à 12% si on prend en considération l'année 2019. En 5 ans, le nombre d'actes anti-LGBT a doublé. Puis un mauvais départ pour les Français à Roland-Garros. Gaël Monfils déclare forfait. Le numéro 1 français, 22e joueur mondial, annonçait aujourd'hui qu'il ne participerait pas au tournoi en raison d'une gêne au talon droit qui l'empêche de se déplacer sur le cours, Fabienne.
Et merci beaucoup Sébastien Logeni. On se retrouve demain, édition spéciale Passation de pouvoir, évidemment sur France Inter. Et jusqu'à 20h entre Jean Castex et Elisabeth Borne, un œil sur le ciel juste avant.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonsoir Elodie Kellac, une journée très estivale, voilà pour demain.
Oui, bonsoir à tous, beaucoup de soleil partout demain. Alors près de la Méditerranée, juste quelques nuages bas côtiers le matin. Du Pas-de-Calais à l'Alsace, on trouvera quelques nuages également, mais ils ne résisteront pas. Sur la Bretagne, ce sera parfois variable entre soleil, nuages, parfois une petite averse sur le Finistère l'après-midi. Et puis de l'intérieur des Pays de la Loire vers la Normandie, là ce sera ensoleillé, mais ça deviendra plus chaotique l'après-midi avec quelques averses orageuses.
Et sinon, température en hausse?
Oui, alors le matin 10 à 17 degrés, l'après-midi il fera 22 à 28 degrés près de la Manche, près de la Méditerranée. 27 à 31 degrés au nord et 29 à 33 au sud, les 33 pour Montauban ou pour Montélimar. Et ce n'est pas fini puisque mercredi, il fera encore très chaud, voire un petit peu plus chaud, souvent 30 à 34 degrés, Fabienne.
Et Elodie Kellac de Météo France, merci beaucoup. Elodie, à tout à l'heure.